cherchais un petit boulot alimentaire et j'ai eu cette idée super innovante et super intéressante. Ah, le ménage, c'est bien, c'est tôt le matin, comme ça je vais pouvoir continuer mon activité artistique l'après-midi.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bienvenue Mathieu.
Merci.
Je suis très content de te recevoir chez nous à Montreuil. Et on va parler un petit peu de ton parcours, de ce qui t'amène finalement ici. Puis voilà, est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux te présenter?
Bonjour, je m'appelle Mathieu Boulanger. Je dirige deux entreprises, une qui s'appelle Résilience, qui est une entreprise d'insertion par activité économique et qui fait du nettoyage, et une autre qui s'appelle Le Petit Plus, qui est ce qu'on appelle une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'il y a au moins 80% de personnes qui sont en situation de handicap dans nos effectifs, et on fait de la collecte et de la valorisation des déchets.
Ok, parfait. Et justement, en fait, ce qui est assez intéressant dans ton parcours, ce que je voulais mettre en avant, nous, quand on parle d'économie circulaire, on dit, c'est recréer du business, faire de l'inclusion sociale et régénérer les écosystèmes. Mais si je me trompe pas, toi, t'es plus arrivé par la porte de l'inclusion sociale, finalement, sur tout cet aspect valorisation de ressources, finalement.
Ouais, je suis même arrivé par la recherche de mon premier emploi, en fait, tout simplement, parce que moi, j'ai vu plein de... Là, maintenant, j'accompagne des porteurs de projets de création d'entreprise. Je vois des business plans avec des gens qui ont des super idées, qui ont des business plans super bien chiadés. Moi, j'ai eu une idée entrepreneuriale assez lumineuse en 2005 quand j'avais 24 ans. Je me suis dit, je cherchais un petit boulot alimentaire. Et j'ai eu cette idée super innovante et super intéressante. Ah, le ménage, c'est bien, c'est tôt le matin. Comme ça, je vais pouvoir continuer mon activité artistique l'après-midi. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, je cherchais mon premier emploi. En effet, j'ai créé ma boîte dans le nettoyage. J'avais pas pour ambition de recruter des gens. J'avais pas pour ambition de créer près de 350 emplois. Et du coup, moi, je viens d'une famille de travailleurs sociaux. Ma mère, elle a été précurseur en Europe sur les sujets de la réduction des risques contre la toxicomanie.
D'accord.
Donc, ma garderie, quand j'étais petit, c'était le pavillon d'accueil des toxicomanes de ma mère. Donc, du coup, à Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Donc, du coup, le social, on va dire que j'ai pas eu besoin de faire un benchmark économie sociale et solidaire, c'est pas un terme qu'on utilisait trop en 2005. Ça avait rien de sexy d'ailleurs. En entreprise, on disait oh là là, ils vont recruter des sortants de prison, on va se faire voler nos ordi. Donc du coup, c'était pas forcément super argument commercial ou un truc super sexy. Et c'est en effet par cette porte-là que j'ai commencé, en tout cas sur nous, ce qu'on aime quand on cause ensemble, autour de l'environnement, autour de l'inclusion, etc., c'est par la porte de l'inclusion, en fait, que ça a commencé.
Ouais. Et justement, ces expériences, donc ça fait maintenant plus de 13 ans que tu as commencé, comment tu en es venu finalement à lancer Le Petit Plus, qui est justement plus spécialisé sur cet aspect faciliter le recyclage, permettre la valorisation du déchet finalement pour la plupart.
Non. Sur ma première boîte que j'ai revendue depuis, qui s'appelle Plus Que Parfait, j'ai démarré sans rien y connaître au nettoyage. J'étais militant écolo avant de monter ma boîte et donc du coup j'ai commencé en 2005 en 100% écolabel, enfin des choses qui aujourd'hui sont devenues évidente dans le monde du nettoyage, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde en 100% écolabel en 2005, enfin, j'en connaissais pas d'ailleurs. Donc c'était avec Ecovert, qui étaient un peu les leaders à l'époque. Et, du coup, j'avais fait beaucoup de choses au niveau social, en effet. L'alphabétisation, les sortants de prison, les personnes en grande précarité. Donc du coup, ça, c'était quelque chose sur lequel j'avais beaucoup bossé. Et en 2007, j'emporte un premier gros marché. Quinzaine d'agents de propreté sur un établissement scolaire assez costaud, un établissement privé. 2500 élèves, 500 professeurs, c'était une petite ville, le machin. Et j'emporte le marché en grande partie parce que j'avais un gros gros package écologique dans mon offre. Utilisation des bidons rechargeables, des produits écolabels, ce qu'on appelle des rotowash, qui sont des petites machines qui permettent d'utiliser très très peu d'eau par rapport à ce qu'on peut consommer des systèmes traditionnels de lavage. J'ai mis en place une machine à laver pour utiliser les franges, etc. La partie environnementale de notre offre avait beaucoup plu. Et puis le jour du démarrage des prestations, c'est con parce que pourtant c'est une chose qui aurait pu être pensée avant, mais je pense qu'en une expérience sur le sujet, je me rends compte que j'ai une armée d'une quinzaine d'agents qui va vider des sacs poubelles remplis à 90% de papier dans des bacs de DIB qui partent à l'incinération. Donc là, je vais voir mon client et je lui dis, mais là, c'est une catastrophe environnementale ton histoire, là, faut faire quelque chose. Mais bah tiens, toi, ça t'apprendra à avoir des idées. Démerde-toi, mais nous, on place le tri. En plus, l'année prochaine, le thème de l'année, c'est le développement durable. Donc, on aimerait bien faire quelque chose. C'est une bonne idée. Et donc, du coup, voilà, je connaissais pas du tout le sujet des déchets. C'est pas un sujet que j'avais vraiment investigué tant que ça. Donc, je suis allé visiter des usines, je suis rencontré des prestataires. Et ça m'a complètement passionné. Parce qu'en plus, il y avait la double dimension, les déchets, la collecte des déchets, les usines que j'ai visitées. Mais il y avait également le fait que j'ai pris beaucoup de plaisir, j'avais un mandat de conseiller de l'enseignement technologique pour l'éducation nationale et la fédération des entreprises de propreté. Mmh. Donc j'allais déjà beaucoup dans des écoles, je recevais des professeurs en immersion, enfin j'ai fait ça pendant pas mal d'années, le lien école-entreprise. Et là du coup je suis allé aussi faire des sensibilisations dans les classes, auprès des professeurs, auprès des élèves. Alors ça c'est une partie qui m'a passionné, quoi, faire un peu d'éducation à l'environnement, sur où est-ce que ça va, comment ça recycler, pourquoi, comment... En plus de la partie très technique du métier, de mettre en place le tri et tout, j'ai trouvé ça génial. Et voilà, ça a démarré comme ça.
Donc c'est cette première activité qui t'a fait créer le petit plus finalement.
Oui, bah au début je me suis dit créer une activité déchets dans mon entreprise de propreté. Mmh. Et après je me suis dit c'est un autre code d'APE, c'est une autre convention collective, c'est un machin, donc du coup je vais créer une structure dédiée. Donc je me suis dit je vais créer une entreprise d'insertion dédiée. Après je me suis dit l'insertion en même temps c'est déjà ce que je vais faire avec résilience plus que parfait là, donc du coup je vais chercher un autre modèle. Et là, du coup, j'ai rencontré l'Union nationale des entreprises adaptées, j'ai découvert le modèle des EA, et du coup, je suis parti dans l'idée de créer une EA dans la Vallée des déchets. Et puis après, mon père vivant à Québec, je suis allé là-bas et ça a transformé toute l'orientation du projet.
Et justement, tu as touché du doigt le terme entreprise adaptée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ses spécificités?
Oui, avec plaisir. Donc en France, on a sur le champ emploi de l'ESS, j'ai dit les coopératives, les SCOP, les machins, les trucs, les mutuelles et autres. Mais sur le champ emploi de l'ESS, on a deux grandes familles. On a l'IAE, l'insertion par l'activité économique, avec les SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique. Là, il y a quatre types de structures qui recrutent des personnes très éloignées de l'emploi, en contrat à durée déterminée d'insertion. C'est pour leur permettre de remettre le pied à l'étrier et de revenir vers l'emploi durable ensuite dans d'autres structures partenaires. Et on a le handicap. Et le handicap, on a deux types de structures, les EA et les ESAT. Les EA qui sont les anciens ateliers protégés, les ESAT qui sont les anciens CAT. Dans ces deux types de structures-là, on va recruter des personnes en situation de handicap, c'est notre savoir-faire. C'est-à-dire que dans une entreprise adaptée, il y a au moins 80% du personnel de production qui est en situation de handicap. On n'a plus, comme avant la loi de 2005 sur le handicap, ce qu'on appelait l'efficience réduite, c'est-à-dire les pourcentages de handicap qui étaient, on avait un organisme qui s'appelait la Cotorep, on avait des pourcentages de handicap qui étaient des choses assez bien à titre personnel, mais assez discriminantes dans le monde du travail.
Bien sûr.
Donc du coup, ça n'existe plus. Il n'y a plus que la notion d'orientation professionnelle. Je suis orienté vers ce qu'on appelle le milieu ordinaire du travail. Nous, entreprises adaptées, on est milieu ordinaire du travail. Donc une personne en situation de handicap peut travailler à la poste, peut travailler à la SNCF, peut travailler chez Wita et peut travailler chez Le Petit Plus. Mm-hmm. Et on a les personnes qui, par la MDPH, sont orientées vers ce qu'on appelle le secteur protégé. Le secteur protégé, ce n'est que les ESAT. Donc là, il y a un médecin qui y travaille, pas de convention collective, on n'a pas de code du travail, on dépend du code de la santé publique, et du coup en ESAT on va retrouver aussi des pathologies plus lourdes, plus invalidantes, qui demandent un encadrement médical.
D'accord.
On a un spectre des pathologies qui est très très large, mais on ne fait pas de l'encadrement médical. On est une entreprise adaptée, on fait ce que l'on appelle de l'adaptation des postes.
D'accord. Ok, nickel. Et donc si on reprend le fil du petit plus, donc t'as commencé par le papier donc en 2007, tu disais 2008.
Mm-hmm.
Comment t'en es venu à faire tous les flux que vous faites aujourd'hui finalement?
Ben, en fait, quand j'ai démarré, j'étais en effet sur le modèle que j'avais vu et à Québec et en France, collecte des papiers. Et puis j'ai démarré avec, à partir de 2009, des clients qui m'ont dit bon ben c'est sympa les papiers, mais on aimerait aussi recycler nos cartouches. Et puis le client d'après, c'est sympa les papiers, mais tu sais, j'avais une petite asso qui passait là pour récupérer les bouchons, est-ce que vous pouvez pas me les récupérer, les massifier chez vous? Ah mais c'est sympa les papiers, mais moi j'ai des gobelets. Et en fait en tirant la bobine, on se rendait compte que les clients, ils avaient jusqu'à 10 prestataires différents pour collecter leurs déchets. C'est-à-dire que s'ils voulaient faire les bons élèves, ils avaient un prestataire de collecte des papiers, et puis après, ils avaient Konibi pour les cartouches, ils avaient Corepil pour les piles, ils avaient Rossilum ou Corepil ou Strelec, ils avaient Rossilum pour les ampoules, ils avaient une solution pour leurs gobelets, parce qu'il y avait quelques solutions qui commençaient à émerger doucement sur le marché. Mais du coup, ils avaient un espresso pour leur capsule, ils avaient un Presta qui venait pour leur D3E, qui était une SIAE ou qui était une entreprise adaptée ou un ESAT. Donc vraiment, ils avaient un nombre de prestataires pour la collecte de leurs déchets qui était donc, du coup, nous, on petit à petit, à force de chercher des partenaires, parce que nous, on aime bien les partenaires, en fait, on aime bien fonctionner en écosystème. Donc, à force de rencontrer, moi j'aime bien ça le benchmark en fait, je l'ai fait dans d'autres pays, je l'ai fait en France, mais du coup, moi quand un client me demandait un déchet que je savais pas faire ou que je connaissais pas, je voyais ça comme plus comme une opportunité d'apprendre et de découvrir et de rencontrer des gens, et comme, c'est pas notre métier, donc ça m'a toujours semblé être dans le prolongement de notre métier, tous ces autres déchets de bureau. Et donc du coup je me suis intéressé, et puis il y a eu un moment en effet où j'avais trouvé un prestataire pour les déchets de boissons, j'en avais trouvé un autre pour les cartouches, j'en avais trouvé un autre pour les plis, j'avais trouvé un éco-organisme pour ci, un partenaire pour ça, et à un moment je me suis dit bah voilà, notre positionnement c'est plus on est une entreprise de collecte des piles ou des papiers ou des déchets de boissons, on est une entreprise de collecte des déchets générés par les professionnels, et les professionnels en question, ils peuvent avoir besoin en entrée de nous demander de collecter une quinzaine de déchets différents à un seul passage, ou ils peuvent avoir besoin uniquement qu'on vienne collecter les bouchons chez eux. Et dans les deux cas, c'est ok. Donc un programme très sélectif, c'est évolutif, on peut commencer avec un déchet et en ajouter qu'un, on peut commencer tout de suite avec 15 ou 16, on peut en collecter qu'un ou deux et rester comme ça pendant 10 ans, voilà, c'est assez évolutif.
Ok, nickel. Et justement, en plus, au fur et à mesure de tes expérimentations et de tes avancées, bah finalement, il y a la loi aussi qui a changé pour faciliter un peu le multiflux, ou ça n'a pas été tant un boost que ça?
Non, ça n'a pas été tant un boost que ça. Si on regarde sur le sujet, par exemple, des biodéchets que je connais bien, ouais, ça a été... les entreprises étaient clairement hors la loi... Et c'était souvent des grosses boîtes. En France, d'une manière générale, tout le monde s'est mis à collecter les papiers parce que ça devenait anormal de pas au moins trier ses papiers. Après, sur tous les autres flux, l'obligation légale, en réalité, j'ai pas vu grand monde aller vérifier dans les entreprises et aller mettre des amendes et avoir. Voilà, donc, et du coup, on vend absolument pas. En faisant peur en fait, en disant oulala, vous vous rendez compte que vous êtes hors la loi. Nous on vient expliquer que à périmètre budgétaire égal, le client qui faisait connement récupérer des bacs de déchets non recyclables ou des bennes, des compacteurs pas triés, il peut faire travailler les personnes en situation de handicap, il peut fédérer ses collaborateurs autour d'un projet, il peut avoir du mobilier très sélectif qui est design et qui lui plaît à l'intérieur de ses locaux, il peut avoir des consignes de tri sélectif qui sont claires, des reportings qui soient motivants, qui l'aident à mettre en place des plans d'action de réduction des déchets, tout ça à périmètre budgétaire égal. Mais c'est vrai que dans notre métier, sur les déchets tertiaires en particulier, il y a eu le décret 5 flux là récemment. Il y a un moment, c'est pas fulgurant sincèrement en termes d'impact. De temps en temps, on a un coup de fil, oh là là, un client qui s'est stressé tout seul sur le sujet, c'est bien, on est content que ça puisse avoir de l'effet, mais c'est finalement c'est pas un levier extrême chez nos clients aujourd'hui, ce qui ne nous empêche pas d'avoir énormément de demandes et d'en avoir plein d'autres.
Et justement, qu'est-ce qui a fait que les entreprises, enfin mis à part les arguments que tu as mis en avant, mais qu'est-ce qui fait que se sont dit tiens, il faut vraiment que on connecte et qu'on gère mieux cette partie déchets là?
Bah, je pense que c'est comme tout, on est en France, on a toujours tendance à râler et à voir ce qui va pas, mais malgré tout, je pense que oui, on va toujours trouver que ça avance pas assez vite en termes d'éducation environnementale, sociétale, de cohérence entre nos actions du quotidien et les enjeux planétaires, mais malgré tout, les choses avancent.
Ouais.
À un rythme, voilà, encore une fois, on va tous avoir un avis sur le rythme, mais on ne peut que constater que ça avance et jeter son trognon de pomme ou son mouchoir par la fenêtre, moi quand j'étais gamin, c'était pas un truc qui choquait tant que ça les gens. Aujourd'hui, je le vois plus et je suis content de pouvoir quelqu'un qui jette sa canette par-dessus sa vitre en bagnole ou en tout cas de quasiment plus le voir. Et nos gamins grandissent aussi avec des notions un petit peu plus sympas en termes d'environnement. Donc à la maison, les collaborateurs qui bossent dans les boîtes chez mes clients, à la maison, ils expliquent à leurs gamins la poubelle jaune. Il y en a qui font du compost, il y en a qui font du lombricompostage, il y en a qui prennent des habitudes. Et quand ils arrivent en entreprise, jeter une canette ou une bouteille dans une corbeille de bureau avec un sac noir sans qu'il y ait de tri, ça a plus rien de naturel. Donc moi, je sais que j'ai déjà discuté avec des responsables RH. On dit qu'ils ont été très surpris de constater que dans les revendications, dans les attentes prioritaires des salariés, finalement ils s'attendaient à voir les pépettes, ils s'attendaient à voir le salaire, ouais. La mutuelle, etc. Et de voir le tri des déchets arriver dans le top 3 des demandes des collaborateurs, ça les a énormément surpris. Moi ça me surprend absolument pas. Je ce serait assez désagréable de parce que mon métier c'est tout simple hein, mais d'être sur un site où j'ai pas de solution pour trier mes déchets. Dans d'autres espaces, dans d'autres environnements, voilà, moi je sais qu'il y a certains endroits où je repars avec ma canette ou ma bouteille parce que je vois qu'il n'y a pas de tri et que ça m'emmerde, je le mets dans ma bagnole et que je sais qu'en arrivant à la maison je vais le mettre dans ma poubelle jaune, ou en arrivant à l'usine je vais le mettre à l'usine. Mais parce que je ramène pas tous les déchets de ma maison dans ma usine quand même. Hein.
Merci.
Mais du coup, ouais, je pense que les collaborateurs sont des très bons ambassadeurs, en fait.
Ouais. Et justement, on commence à évoquer cette partie-là, c'est en termes d'impact, après 10 ans, 13 ans d'activité sur le point de tes deux entreprises, quels sont les impacts majeurs que t'as pu, atteindre, provoquer, si tu préfères?
J'en vois, bien sûr, enfin moi je vais toujours avoir tendance à prendre l'impact social en premier.
Bien sûr.
Donc je vais pas aller dans la facilité pour te répondre, parce que sinon celui-là je le connais par cœur et je vais être très content de t'en parler. Donc oui, l'impact social en premier, mais après je dirais aussi qu'il y a le modèle économique. Et il y a la conduite du changement, je pense, qui, sans prétention aucune, on a à notre échelle, tout comme beaucoup de nos confrères, hein, mais je pense qu'on a apporté notre pierre à l'édifice, le modèle économique, dans le sens où, moi, entre 2007 et 2010, j'ai fait beaucoup de benchmarks, et ce que j'ai vu, c'est en France, soit des très petits acteurs dans les déchets qui étaient des entreprises de l'économie sociale et solidaire, j'ai vu, là, ISAT, outils d'insertion, Régie de quartier, qui collectaient les déchets, souvent un seul déchet, peut-être encore un petit déchet. Et de l'autre côté, j'ai vu des très gros mastodontes, après que c'était Veolia ou d'autres. Et d'un côté, il y avait les très petits qui disaient, ben nous, on collecte les déchets, mais on est des prestataires de services. Donc on va aider le client à bien organiser le tri dans ses locaux, on va lui faire des petites affiches, des petites corbeilles, on va l'aider, on va sensibiliser son entreprise de propreté, ses collaborateurs. Puis quand ça arrive dans notre usine, on trie un peu comme on peut, mais après tu te rends compte, c'est pas nous les industriels. Hein. Je me rappelle, on m'expliquait qu'il fallait 5 millions d'euros pour faire une usine qui soit en capacité de mettre en balle les papiers et de les dealer en direct avec les papetiers. Et de l'autre, il y avait les très gros qui disaient, bah oui, copain, si tu veux collecter des déchets, il va falloir nous les filer après, parce que tu te rends compte, il faut il faut minimum 5 millions d'euros, il faut faire des camions de 30 tonnes avec des balles de minimum 600 kilos, etc. Donc vous là, votre truc c'est le social, mais laissez-nous faire notre boulot, nous on est les industriels. Et donc il y avait cette vision vraiment de prestataire de service, d'ingénierie de service chez les boîtes de l'ESS, mais pas une vision industrielle. Et à Québec, ce que j'ai vu, j'ai visité des entreprises sociales là-bas, des entreprises d'insertion, des entreprises adaptées, et ce que j'ai vu, c'est des entrepreneurs sociaux qui ont le cerveau qui tourne dans le sens inverse du nôtre. C'est-à-dire que ils se disent, nous, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit moyen, à partir du moment où on récupère des papiers ou des déchets, on est des industriels. Ouais. Il va nous falloir une guillotine pour la tranche des livres, il va nous falloir une presse à balles, il va nous falloir une mezzanine avec des convoyeurs, et il va falloir qu'on soit en capacité d'acheminer ces balles. Ah, j'ai vu une entreprise adaptée de 40 personnes handicapées qui revend en direct des balles de papier à Cascade, qui est le plus gros papetier mondial. Donc du coup, je trouve même qu'en termes d'ingénierie de service, en termes de qualité de l'offre de service, on est même meilleur qu'eux là-bas. Mais c'est juste, voilà, c'est une façon d'aborder le métier. Ils l'abordent dans l'usine prioritairement, quelle que soit leur taille. Et nous, quand on est petit, on l'aborde chez le client dans la prestation de service. Donc quand je suis revenu en France, j'ai contacté Arjol Higgins, qui est le plus gros papetier européen, et je leur ai dit, voilà les photos, voilà ce que j'ai vu à Québec, voilà ce que je veux faire, une usine en petit format comme ça, pour être en capacité de faire des balles, où est-ce que je peux trouver des fournisseurs, qui est-ce qui fait déjà ça? Et le mec me dit, de chez Arjol, moi tu sais, j'achète les vieux papiers à toutes les boîtes, mon boulot c'est d'aller benchmarker toutes les boîtes de déchets pour les rencontrer et d'aller leur racheter les papiers qu'ils collectent. Et à ma connaissance, ça n'existe pas en France, ton machin. Il n'y a pas d'équivalent. Donc, à part qu'il te démerde un peu. Et donc, du coup, voilà, j'ai cherché des fournisseurs, j'ai mis en place cette usine, et j'ai développé ensuite ce modèle-là sur tous les déchets. Et aujourd'hui, ça commence à se démocratiser. Nous, on recycle uniquement en France. Nous, tous les déchets restent en France. Donc, je pense que... et ça a été aussi un argument qui nous a permis d'emporter beaucoup de marchés. Donc, ça a fait chier un petit peu quelques concurrents qui s'y sont mis aussi. Donc, je pense qu'à notre échelle, tout comme d'autres confrères hein, qui ont beaucoup œuvré dans ce sens-là aussi, je pense qu'à notre échelle, on a aidé à montrer une autre façon d'entreprendre dans les déchets. Il y a beaucoup d'opacité sur qu'est-ce que deviennent les déchets une fois qu'ils sont collectés par les prestataires. C'est infernal. Enfin, quand on rencontre un commercial, un grand groupe déchets, on lui demande « Mais ma feuille de papier ou ma canette, qu'est-ce qu'elle devient quand tu l'as collectée ?» Il nous explique que sa grand-mère, elle est tombée dans l'arbre, qu'il y a un écureuil qui est passé, mais après, on était vendredi, il faisait chaud. Donc, et c'est compliqué, du coup, d'avoir cette traçabilité. Donc nous, du coup, on oppose à cette opacité ambiante une transparence absolue. On ne dit pas, on a les meilleures filières, les plus en économie circulaire, avec le meilleur bilan carbone, etc. On dit, on a fait des recherches sincères uniquement dans ce sens-là. Quand on va voir un recycleur, on lui dit pas, à combien tu vas me racheter les matières pour que ça me rapporte le plus? On lui dit, quelle est l'histoire que je vais raconter à mon client?
Bien sûr.
En totale transparence. Et cette histoire-là, on veut que si le client nous dit on te prend au jeu, on a envie d'aller la visiter ton usine, on a envie d'aller voir, mais nous on connaît une autre usine qui est là-bas, on a envie de pouvoir être challengé sur ces sujets-là en totale transparence. Donc l'idée c'est pas, on n'a pas de broker comme dans les boîtes de déchets plus costauds hein, qui vend les matières au plus offrant. On est sur un modèle où on a des partenariats d'exclusivité avec des éco-organismes, avec d'autres entreprises adaptées comme sur les D3E ou sur les cartouches. C'est d'autres entreprises adaptées, nous on va juste massifier pour eux et ils vont faire du démantèlement. Où ils vont recharger les cartouches, tout ça. Donc des éco-organismes, des usines de recyclage final en direct, des entreprises sociales, et on placarde ça dans nos réponses, et le client, il a une garantie que ses déchets iront pendant toute la vie du contrat dans la même usine ou au même endroit, et qu'on l'informera si éventuellement ça doit changer. Donc je pense qu'on a, voilà, en tout cas à l'échelle française, et à notre modèle échelle de petite entreprise sociale, je pense qu'on est arriver avec une approche un peu différente de qui est un peu jusqu'au boutiste,
ouais.
Et que ça a créé un argument commercial fort pour le petit plus que les autres ont eu envie d'aller s'approprier aussi. Et donc il y a eu la période des attestations de complaisance et des discours un peu
tu veux dire pour les rapports RSE, etc.
Oui, pour même les où est-ce que c'était recyclé, quelques attestations de compétences. Et puis là, voilà, on sent que tout le monde vraiment s'y met. On n'est pas les seuls à avoir contribué à ça du tout. Hein. On se prend pas du tout au centre du monde. Et je dis ça vraiment en toute unité. Je pense qu'à notre petite échelle, on a un petit peu contribué aussi à ce que tout le monde soit plus transparent et affiche un petit peu plus du recyclage français. Voilà, je pense qu'on a on a œuvré là-dedans. Ça c'est voilà, les trois sujets pour moi, c'est l'impact social, c'est en termes de réalisation, voilà, ce modèle économique, et c'est un troisième sujet sur les changements d'habitude en termes d'organisation de tri sélectif dans les entreprises. Moi, j'ai accompagné pendant 2 ans la Fédération des entreprises de propreté bénévolement à écrire un guide qui s'appelle aujourd'hui Smart Tri pour aider les entreprises à les entreprises de propreté à proposer le tri sélectif à leurs clients. Ils partaient de loin en termes de conseils parce que beaucoup considéraient, mais ça c'est pas notre job, enfin nous les, on les corbeilles, on les vide, monsieur le client, toi tu achètes des corbeilles, voilà. Et donc du coup on était à une période où quand le client il demandait à l'entreprise de propreté, il disait bah moi si t'as des corbeilles je les vide, quand il demandait à l'entreprise de collecte des déchets, il dit moi si t'as des bacs en bas de l'immeuble je viens les vider, et entre les deux, et bah, le client il avait Office Depot et il avait www.demerde-toi.com. Et donc du coup comment je sélectionne l'emplacement de mon mobilier très sélectif? Est-ce que je garde des corbeilles au poste de travail ou est-ce que je mets d'autres solutions? Quelle communication? Quel plan d'affichage? Comment je fédère mes collaborateurs autour du projet? Comment je rends les consignes claires et ludiques? Quel prestataire pour collecter les déchets? Quel type de déchets? Tout ça, nous, on se présente comme ayant deux métiers, un métier de collecte de déchets, bien sûr, mais avant tout, un métier de conseil dans l'organisation de programmes très sélectifs. Donc c'est cette vision aussi de, on est une boîte de conseils en conduite du changement qu'on est venu greffer sur un métier traditionnel de collecte des déchets et qui pour moi change beaucoup de choses. Dans ce petit guide que j'avais écrit pour la Fédération d'entreprises de propreté, j'ai écrit que dans 10 ans, les corbeilles individuelles au pied des bureaux, ça n'existera plus nulle part en France avec ou sans nous. On verra dans 10 ans, on en reparlera pour voir maintenant 8, pour voir si j'avais raconté des conneries, mais c'est vrai que du coup on a apporté aussi dans le conseil. J'ai vu la propreté pendant 13 ans très très peu évoluer comme secteur d'activité. En termes d'offre de services, on peut considérer, c'est pas par immobilisme, c'est parce que l'offre de services est arrivée à maturité. On n'a pas énormément réinventé en disant la manière dont on nettoie les locaux. Par contre, l'offre déchets, je l'ai vu évoluer tous les 6 mois depuis 2007 de manière très rapide, et j'ai vu les clients essayer de s'adapter à l'offre de service. C'est-à-dire que l'offre de service est en avance sur les cahiers des charges et les attentes des clients. Aujourd'hui, on arrive encore en proposant, en surprenant les clients sur le nombre de déchets qu'on est capable de collecter, sur les reporting qu'on est en capacité de lui fournir, sur la logistique, sur la communication, sur l'accompagnement, sur le mobilier. Donc du coup, je pense que si on a apporté à notre échelle, on a contribué à développer ce qu'on appelle l'apport volontaire des déchets en entreprise par une méthodologie qu'on a créée, qui a porté ses fruits avec des fast-tests gratuites, avec tout un tas de choses qui aident le client à se projeter dans une organisation pour laquelle il y a énormément de freins au changement.
Ouais. Et justement, sur tout cet aspect évolution très rapide du marché, etc., il y a aussi, tu l'as évoqué rapidement, mais une grosse notion de concurrence. Est-ce que justement vis-à-vis de tes concurrents, vous avez des échanges, enfin, comment c'est mis en place un peu tout cet écosystème? Qu'est-ce que t'étais un peu là au début de la mise en place de cette activité, et comme tu le dis, ça a été très très rapide. Comment t'as eu des relations avec ces concurrents ou partenaires, enfin je sais pas comment tu les appelles, comment tu les considères surtout?
Bah, disons que moi ça fait maintenant 13 ans que je dis que j'ai pas de concurrents, j'ai que des confrères. J'ai soit des confrères, soit des gens qui n'existent pas, en fait. Si je veux regarder que ma fenêtre à moi, moi j'adore rencontrer des confrères, discuter du métier, de ses évolutions, etc. Enfin, quand on a un stand sur un salon, je suis toujours à me balader sur le stand des copains, à causer avec tout le monde.
Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés.
Oui, tout à fait. Et moi, j'ai des prestataires aujourd'hui qui sont mes confrères, avec qui on peut se tirer la bourre sur des appels d'offres que j'ai aidé à se créer. J'en ai 2 en tête. Et dans la propreté, c'est pareil. J'ai dû aider une 15aine de porteurs de projets de création d'entreprise de propreté à se créer, dont certains sur le territoire dans lequel j'avais mon entreprise de propreté. Donc moi, je considère que un confrère, il nous tire vers le haut, il rajoute du challenge, et à la fin, que le meilleur gagne. Donc oui, au moment d'un appel d'offres, on va répondre en se disant, on est des tueurs, on va l'emporter parce qu'on est les meilleurs, avec des partenaires ou pas avec des partenaires, mais au moment de l'appel d'offres, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour être meilleur que les autres et pour l'emporter. Ça, c'est le jeu des appels d'offres, c'est le jeu de la concurrence. Pour moi, ce qui pose problème, c'est quand on reste dans cet état d'esprit, quand on n'est pas en période d'appel d'offres. Au contraire, je suis content de le voir et de discuter avec lui. Donc, voilà, j'ai eu un accueil mitigé de certains qui m'ont dit, mais au fait, on est concurrents, pourquoi tu voudrais qu'on se parle? Voilà, moi, c'est pas trop ma façon de voir les choses. J'ai fait visiter mon usine à peu près tous mes confrères. J'ai pas pour autant visité l'usine de tout le monde. Du coup, il y en a certains avec qui on est bons copains. Et avec qui on peut aussi se retrouver en concurrence. Et on sait que on peut compter les uns sur les autres. Enfin, moi, j'ai un confrère qui est une entreprise adaptée aussi, qui m'a dit, bon, Mathieu, tu sais quoi, là, on a un gros appel d'offres en commun. Toi, t'as l'Île-de-France Nord, moi, j'ai l'Île-de-France Sud. Je perds l'Île-de-France Sud, je me retrouve avec 3 ou 4 salariés sur les bras, je vais être un peu emmerdé, est-ce que tu peux venir? Avec plaisir, on s'assoit, on va regarder s'il y a une obligation de reprise de personnel ou quoi. Et moi, c'est avec plaisir, et d'ailleurs, tiens, maintenant que tu m'en parles, c'est un peu pareil pour moi, en fait, copain. Mais voilà, il peut y avoir plein de sujets de mutualisation intelligente, de partage de bonnes pratiques, de sujets RH, de sujets de recrutement. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. À l'Union nationale des entreprises adaptées, on réfléchit à une filière déchets. Maintenant, moi je connais et je viens d'un secteur qui est très concurrentiel qui s'appelle la propreté. Dans un secteur où il y a une dizaine de boîtes sur un périmètre dans lequel il y a 33% du PIB national, je considère pas que c'est très concurrentiel. Je considère que on est souvent les mêmes 3 ou 4 à se retrouver sur les marchés et à se tirer la bourre, on est souvent les mêmes. Donc on se voit souvent sur les visites, on se connaît, j'ai le numéro de portable d'à peu près tous les confrères sur mon téléphone, et pareil pour eux. Donc on n'est pas beaucoup à être assez connus dans notre petit écosystème, hein, mais à être assez connus par les donneurs d'ordre et à avoir été sourcés par toutes les grosses directions achats, et donc du coup à se retrouver sur les marchés. Mais je considère qu'il y a encore beaucoup de place dans ce contenu.
Ouais, c'est clair. Et justement, si on prend un petit peu plus de recul vis-à-vis de l'économie circulaire, t'as vu une certaine évolution. C'est quoi ton point de vue sur le sujet en règle générale, pas uniquement sur ton métier?
Ben, moi, ce que j'ai vu qui a été flagrant pour moi, alors d'autant plus que j'ai installé mon usine à proximité immédiate, c'est le phénomène des ressourceries.
Ouais.
Je me suis installé à côté de la ressourcerie Demain, qui est maintenant à Aulnay, qui est une très très belle ressourcerie. Moi-même, j'ai porté le projet de création d'une ressourcerie sur mon territoire pleine commune. Pendant 2 ans, j'ai créé une association qui s'appelle La Pépiterie avec tout un tas d'autres acteurs de l'ESS ou innovants dans les déchets ou dans le réemploi sur la pleine commune. Et donc, du coup, ça m'a passionné ce modèle des ressourceries et du réemploi. Le réemploi, qui est un sujet finalement que à titre personnel, j'avais pas énormément creusé, j'avais pas été si curieux que ça sur ce sujet-là. Et là, je l'ai découvert par le biais des ressourceries. Et je trouve ça intéressant, et il y a 2 phénomènes, il y a la ressourcerie et les biodéchets, mais je trouve ça intéressant que la culture en entreprise commence un petit peu à ne plus se limiter qu'au sujet du déchet et du recyclage, que les 3 R, c'est plus seulement pour faire joli, réduire, réutiliser, recycler, tout le monde a ça en tête, sauf que en entreprise, concrètement, on passe tout de suite à la dernière étape sans jamais se poser de questions. C'est pas tout le monde, hein. Je suis pas en train de te dire que tout le monde est en train de te parler de réemploi quand tu es en rendez-vous avec un responsable des services généraux qui est à 6h du mat sur son site. Parfois, il va un peu vite. Mais du coup, je vois aussi que petit à petit, la fonction développement durable se professionnalise un petit peu en entreprise. Ils se laissent un peu moins endormir. Ils sont beaucoup plus sur la notion d'indicateur maintenant que sur les beaux rapports et les belles lettres d'engagement.
Ouais, les gens comprennent qu'il y a une dimension innovation, même parfois une dimension vraiment financière aussi sur cet aspect-là.
Tout à fait, tout à fait. Donc la notion de l'éco-conception, la notion du réemploi, c'est pas encore... Enfin, je pense que Vita, ils ont encore pas mal de missions de consulting sur le sujet dans les années à venir, mais je constate que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus avec les clients, en tout cas, on arrive à être réceptif. On nous dit, mais en termes de production de déchets, comment vous pouvez nous accompagner, et qu'on leur répond Mais moi, avant de vous, moi, je peux, mon métier, c'est pas le conseil dans la réduction des déchets, je peux y contribuer, mais c'est pas mon métier, mais en tout cas, c'est le métier. Mais d'après moi, avant de passer par l'étape conseil dans la réduction de mes déchets, il y a à se poser la question de pourquoi je produis ce déchet-là, pourquoi c'est celui-là que je produis, pourquoi je le produis, et ça, je sens un petit peu plus de réceptivité de la part de mes clients. Donc ça, je trouve que c'est une belle avancée. Et je vois aussi beaucoup d'avancées sur le sujet des biodéchets.
Ouais.
C'est un marché que je trouve super dynamique, sur lequel il y a énormément de potentiel, énormément de choses à faire. Donc je regarde ça d'un œil assez curieux, assez intéressé. J'ai un partenaire qui s'appelle Moulineau, qui fait de la collecte de la valeur de biodéchets, avec qui je bosse beaucoup, qui est une super boîte aussi. Et je trouve ça intéressant, ce modèle-là qui est en train de se développer sur les biodéchets aussi.
Ouais, carrément. Surtout que là aussi, il y a pas mal d'acteurs qui commencent à se créer. Et tu disais justement que tu accompagnais pas mal de porteurs de projets. Est-ce que aujourd'hui, pour ceux qui souhaitent se lancer, tu n'aurais pas 3 conseils comme ça pour dire, bah voilà, si vous voulez vraiment réussir votre boîte dans le domaine, faites ces 3 choses-là ou pensez à ces 3 aspects-là.
Tout d'abord, allez rencontrer tout le monde. Il y a les connards qui vont vous envoyer bouler. On en a parlé d'un tout à l'heure à table d'ailleurs. Non, mais il y a ceux qui vont vous envoyer bouler en vous disant, mais attendez, vous voulez devenir un de mes concurrents, pourquoi je vous conseillerais? Mais malgré tout, ils sont minoritaires.
Ouais,
ils sont minoritaires. Moi, je me rappelle pas en 13 ans avoir reçu un coup de fil en disant, bah voilà, j'aimerais lancer une activité, est-ce que je pourrais avoir des conseils et pas avoir ouvert ma porte en grand. Donc du coup, allez benchmarker beaucoup, faut être très curieux, surtout dans cet univers-là. Faut être très curieux, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est je ne sais pas. J'aurais pas fait 2% de tout ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais pas eu plein de gens beaucoup plus compétents et beaucoup plus malins que moi autour de moi. Donc du coup, moi je crois très peu à l'homme providentiel en fait, ou la femme providentielle tout simplement. Donc c'est d'avoir des femmes et des hommes autour de soi. Et je parle pas forcément de salariés, je parle pas forcément de recruter. Il y a plein de manières d'avoir des gens autour de soi. C'est fournisseurs, c'est les autres chefs d'entreprise, ses confrères. Il y a des consultants à temps partagé, des salariés. Mais vraiment facteur clé de succès quand on est sur ce genre de métier qui bouge énormément et qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité. Quand on est dans son jus, on a besoin autour de soi de beaucoup de monde parce que cet écosystème-là fait que nous, c'est nous de temps en temps qu'allons réussir à prendre un peu de hauteur et sortir la tête du guidon et à dire à tout le monde, mais regardez, là le marché il part par là, ou regardez, il y a cette offre de service, etc. Mais ça, c'est une fois sur 10, c'est les 9 autres, c'est les gens de notre écosystème qui vont avoir cette prise de recul qu'on n'a pas. Donc du coup, oui, bien s'entourer, pas hésiter à s'entourer en quantité. Vaut mieux trop que pas assez dans ce domaine-là de conseils, en fait. Hein. Conseils, ça coûte un peu de temps, mais ça coûte pas beaucoup d'argent de recevoir des conseils. Donc du coup, ouais, je crois que c'est ça aussi. C'est d'être très curieux, d'aller benchmarker, d'aller prendre ce temps-là et benchmarker. C'est pas que quand on est en train d'écrire un business plan, hein. Ça fait 13 ans que je passe beaucoup plus de temps à benchmarker que j'en ai passé au moment de créer mon projet, hein. Merci. Donc du coup garder cette curiosité là et garder cette habitude c'est une manière de se former, hein, une manière de se former aussi tout simplement, hein. Moi je me forme aussi beaucoup en allant voir les autres boîtes et les autres partenaires et en regardant ce qu'ils font, et je reviens chez moi et je dis à tout le monde, regardez les photos, regardez ce que j'ai vu chez les copains, c'est trop bien, faut qu'on fasse pareil. Moi je vois souvent des confrères avec qui on est en confrontation sur des appels d'offres de temps en temps, à qui je dis, mais les gars, vous êtes largement meilleurs que moi là-dessus, hein. Faut laisser son ego de côté, hein. Et merci, vous me tirez vers le haut. Et parce que ça existe, parce que on a tous des arguments différenciants. La question, c'est est-ce qu'on est bien toujours au fait de quels sont les arguments différenciants des petits copains. Et le troisième conseil, c'est d'arrêter de faire son étude de marché aujourd'hui.
n'a rien à foutre de ton étude de marché d'aujourd'hui. Enfin, t'as, c'est bon, ta boîte, elle est créée, t'es en train de démarrer ton activité. Fais ton étude de marché dans 5 ans. C'est qui tes concurrents? Qu'est-ce que tes clients achèteront dans 5 ans? Et il faut toujours être dans cette étude de marché-là. Tout le temps. C'est le moindre petit indicateur qui te fait changer les habitudes d'achat de tes clients aujourd'hui. C'est ça qui se passera dans 5 ans. Et en tout cas, c'est des indications plutôt sur ce qui se passera dans 5 ans. Et elles sont précieuses parce que parfois, certaines transformations demandent 5 ans dans une boîte.
Surtout quand t'as des process qui sont assez établis, etc., et que ça peut être du temps à transformer.
Oui, ou quand c'est des choses que tu ne sais pas faire.
Ouais.
Quand c'est des choses que tu ne sais pas faire, que c'est pas ton, enfin, voilà, moi je suis pas un industriel, par exemple, hein. Enfin, je suis même pas un chef d'entreprise à la base. Ma première boîte, en 2005, c'était mon premier emploi. Donc, j'ai pas d'expérience en entreprise, j'ai jamais bossé, j'ai jamais eu un contrat de travail avant le premier que je me suis fait à moi-même. Au niveau de la négo, on a réussi à tomber d'accord, donc c'est pas mal. mais du coup, ouais, c'est ça aussi, c'est d'être ou d'avoir, enfin, si c'est pas forcément le tempérament du dirigeant, d'avoir des gens autour de soi qui va pas les comprendre, il va pas comprendre ce qu'il raconte, hein. Mais c'est important. Il y a besoin d'un développeur dans une boîte, un développeur qui soit visionnaire et qui soit en avance, parce que sinon, on peut se faire surprendre et on peut prendre un train de retard.
Ouais.
Voilà, bien s'entourer. Et donc, si on parle, encore une fois, de bien s'entourer, encore une fois, c'est pas uniquement en interne avec ses collègues, mais pour la partie des collègues, bien s'entourer, ça veut aussi dire bien s'occuper d'eux, ça veut aussi dire une gouvernance qui soit saine, qui soit pas toxique, une transparence absolue. Moi, ça fait 13 ans que tout le monde connaît ma rémunération, et j'ai jamais eu de surprise sur comment je touche, quel que soit le mode de rémunération. Donc, voilà, quelque chose d'assez transparent, d'assez sain, où les gens se sentent en confiance, parce que c'est le premier, pour moi, en tout cas, ce que j'observe depuis 13 ans, c'est que c'est le premier facteur de motivation à ma connaissance, avant le financier, avant tous les autres, hein, qui sont importants, mais c'est de bosser en confiance,
le contexte.
Et voilà, et benchmarker, et être curieux, et avoir une vision des attentes de ses clients, et des attentes de son marché, et de son environnement concurrentiel, non pas au jour d'aujourd'hui, parce que quand on a une activité, on n'est pas un peu, mais plutôt à 50 minutes.
Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut te souhaiter pour les années à venir, que ce soit pour toi ou pour le petit plus, ou est-ce que t'as des choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit?
Bah, je suis méfiant sur... tu vois, en entreprise, il y a souvent cette tendance à souhaiter du développement. Mais enfin, la merde dans laquelle on est au niveau planétaire, c'est aussi parce qu'on a souhaité... On est dans un système capitaliste qui souhaite le développement. Le développement, c'est pas toujours forcément voilà. Donc, nous, on se développe parce qu'on a un marché qui nous tire vers le développement. Par moment, la meilleure des solutions pour une boîte, c'est de faire 2 millions de moins et elle s'en portera beaucoup mieux, en fait. Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase de développement. Je sais pas si dans 5 ans, ce sera toujours aussi souhaitable d'être dans le développement. Là, aujourd'hui, on est dans le développement. Moi, ce que je pense qu'il y a à souhaiter à l'OptiPlus, c'est qu'on continue à progresser en termes de qualité de vie au travail pour nos collaborateurs.
Ouais.
C'est pour ça que je suis méfiant sur le développement. C'est qu'en tout cas, c'est une promesse que l'on fait à nos collaborateurs, c'est de dire là en ce moment il y a un développement fort. On aimerait que la courbe d'amélioration du chiffre d'affaires suive toujours la même pente que la courbe d'amélioration de la qualité de vie au travail. Parce que c'est pas parce qu'on est une entreprise adaptée, c'est pas parce qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qu'il y a forcément, on n'a pas le service RH d'une grosse boîte. Donc on fait énormément de boulot sur l'adaptation des postes, sur la communication entre les collaborateurs, sur le vivre ensemble. Mais je pense qu'on a toujours à progresser dans ce domaine-là. Donc voilà, j'espère que dans 5 ans, on sera une entreprise dans laquelle il fait vraiment extrêmement bon vivre pour les collaborateurs. J'espère que c'est déjà le cas et j'espère que ce sera encore le cas dans 5 ans. Premier truc à nous souhaiter, je pense.
Ouais, c'est tout pas mal.
Ouais. Et moi, à titre personnel, de prendre toujours autant de plaisir.
Ouais.
Parce que je m'éclate vraiment dans cette boîte. J'en suis fier. Et je prends du plaisir avec mes collègues et j'espère que dans 5 ans... ça me fera toujours autant plaisir de t'en parler, ça me fera toujours autant plaisir d'en parler à mes enfants, Et ça aussi, c'est déjà balèze, si c'est le cas.
Nickel. Bon, bah, un grand merci en tout cas, et puis j'espère à très bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.